en ce 3 janvier, cette année, ce serait une bonne chose de fêter la sainte du jour, Sainte-Geneviève. J'ai trouvé des renseignements intéressants sur Sainte-Geneviève, patronne de Paris, qui est décédée en l'an 512. D'autres disent en l'an 500, mais il semble bien que ce soit 512. Et c'est une femme vraiment remarquable, d'après tous les documents qu'on a, les documents de l'époque qui ont été analysés par les auteurs de cette vie de Sainte-Geneviève que j'ai en main, qui sont les Bénédictins de Paris. L'an dernier, j'avais donné la place à Henri Bergson, ce philosophe que j'estime beaucoup, qui est mort en 1941, qui était presque catholique et qui était l'un des plus grands philosophes spirituels de ce siècle, qui a été prix Nobel en 1927, qui était en somme le philosophe de l'intuition. Alors donc aujourd'hui, place à Sainte-Geneviève, dont c'est vraiment la fête aujourd'hui. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Sainte-Geneviève est née dans un village tout près de Paris, qui fait partie maintenant de Paris. Elle est née à Nanterre. Il y a même une université à Nanterre, maintenant. Elle est née au pied d'une colline qui est désignée depuis sous le nom de Mont Valérien. Et on croit qu'elle est née en l'an 420. Son père se nommait Sévère. C'est un nom curieux que je me souviens de quelqu'un à Outremont qui s'appelait Sévère Godin. Et sa mère s'appelait Géroncia. C'est presque un nom de vieille femme, Géroncia. Ils étaient chrétiens tous les deux. Ils ont fait baptiser dès sa naissance leur enfant. Et elle avait une marraine qui habitait Paris, qui a demandé qu'on donne le nom de Geneviève. Geneviève qui veut dire femme de race. Et elle avait 7 ans à peine, et quand sont passés par le village deux grands évêques, Saint-Germain d'Auxerre et Loup de Troyes. Quel curieux prénom hein, que Loup, Jean-Loup, on voit ça. Parce qu'il y a un saint qui s'appelle Loup. Et il se rendait en Grande-Bretagne pour combattre et faire disparaître des restes de l'hérésie pélagienne, c'est-à-dire une hérésie qui niait l'importance du péché originel et qui affirmait que l'homme peut se sauver par ses seules forces. C'est surtout cette deuxième affirmation que ces évêques voulaient abolir. Et ces deux évêques avaient une mission plus intime, disons, à remplir à Nanterre, où ils s'arrêtent un jour et une nuit. La population chrétienne de Nanterre vient à leur rencontre. Ils veulent recevoir la bénédiction de ces évêques au moment où ils vont entrer dans l'église. Après avoir chanté des chants liturgiques, les louanges du Seigneur, eh bien, Saint-Germain se tourne vers l'assistance et lui adresse une exhortation. Puis il remarque la jeune Geneviève, qui n'a que 7 ou 8 ans et qui est avec ses parents. Et quand il a terminé, il se la fait présenter, puis il trace un signe de croix sur son front, comme font bien des prêtres et des évêques avec des enfants. Hein. Mais il s'adresse à ses parents, et puis il leur dit « Heureux êtes-vous d'avoir donné le jour à cet enfant. Elle sera grande devant le Seigneur, qui en fera son instrument pour la conversion et le salut d'un grand nombre. » Ça ressemble beaucoup à des choses que l'on trouve dans la Bible. Il se tourne vers Geneviève, puis lui dit « Ma fille, veux-tu te consacrer à Dieu et conserver pour lui ton cœur pur et sans tache ?» Et elle lui aurait répondu, malgré son jeune âge, environ 8 ans, « Mais c'est possible. Béni soyez-vous, mon père. Vous me proposez ce que je désire et ce que je demande au Seigneur de toute mon âme. » Alors, entendant cette réponse, évidemment, l'évêque l'a béni. Et le lendemain, les deux évêques, après avoir célébré tous leurs offices, ils se préparent à partir. Mais l'évêque Germain se fait amener Geneviève, encore une fois, qui lui redit son bonheur et renouvelle sa promesse d'être tout au Seigneur. Et elle ajoute, avec son secours, « J'espère lui demeurer fidèle. » On serait demeuré fidèle à Dieu sans le secours de Dieu, de l'Esprit-Saint. Je ne saurais trop insister. Ça ne se fait pas tout seul. Et à ce moment, bien, l'évêque Germain aperçoit sur le sol une pièce de monnaie qui porte l'empreinte de la croix. Il la ramasse, la bénit et la donne à Geneviève en disant « En souvenir de moi, suspends cette pièce de monnaie percée à ton cou et garde-la toujours et ne souffre pas qu'on te mette au cou ou au doigt d'autres bijoux d'or ou d'argent. Si la moindre parure du siècle, du monde, venait à séduire ton âme, ça en serait fait pour toi des splendeurs éternelles et célestes. » Il l'avoue donc à être religieuse, et c'est ce qu'elle désire d'ailleurs. Alors cette jeune enfant se trouve par conséquent consacrée à Dieu. Je vous rappelle que plus tard, Sainte Gertrude sera déjà dans un monastère à 5 ans. Les choses ont bien changé, on prend les choses tout autrement. Il faut bien se mettre dans le temps, et puis la vie était beaucoup plus courte. On mourrait facilement en moyenne vers l'âge de 35 ans, quoi. Alors Geneviève fait de rapides progrès, elle s'adonne à la prière, aux exercices de la pénitence, puis elle passe à l'église les moments où elle pourrait s'amuser, les moments qui lui sont laissés. Et cette dévotion toujours croissante pour Dieu, cet amour de Dieu, finit par inquiéter puis indisposer sa mère. Mais sa mère trouve que son enfant exagère. Et un jour, de grande solennité, Geneviève se fait de plus en plus, disons, achalante. Elle ennuie sa mère, et encore plus que d'habitude, elle demande la permission de se rendre à l'église. Et là, sa mère, Géroncia, s'impatiente. Et pour toute réponse à cette pauvre petite Geneviève, elle la gifle. Mais à peine cette pauvre femme a-t-elle giflé sa petite Geneviève, qu'elle est prise vide, dit-on, de l'usage de la vue. Et par ce coup qu'elle a donné à sa fille, qu'elle n'a pas voulu faire au fond, c'est parti tout seul, comme on dit, Dieu semble vouloir lui rappeler que les enfants appartiennent au Seigneur d'abord. Ça lui appartient, les enfants, avant d'appartenir à leurs parents. Et que lui-même s'est réservé le droit de les choisir à son heure. Au fond, je vous l'ai déjà dit, est-ce que les parents sont capables de faire un enfant? Non. On ne peut pas faire des yeux, un cerveau. On ne peut pas faire une bouche, un cœur. C'est Dieu qui fait nos enfants. Et jusqu'au très fond de notre être, nous devrions savoir que nos enfants lui appartiennent. Il nous les confie pour qu'on les éduque dans le bonheur de l'amour de Dieu. C'est là qu'est l'amour. C'est là qu'est le bonheur. C'est là qu'est le ciel sur terre, quoi. Alors sa mère se trouve conduite à demander la main de son enfant pour guider ses pas. Et tout ça va durer 18 mois, 1 an et demi. Et finalement, la mère se souvient du témoignage que l'évêque Germain a porté sur sa fille. Alors elle se persuade que Dieu ne lui tiendra pas rigueur, finalement, de ce qu'elle a fait. Et un jour, elle appelle Geneviève et elle lui dit « mon enfant, va donc au puits chercher de l'eau, puis apporte-la-moi. Je suis incapable d'y aller seule. » Alors Geneviève obéit, et pendant qu'elle puise l'eau, elle arrose de ses larmes la margelle du puits en songeant que sa mère a perdu la vue à cause d'elle-même. Alors elle apporte le vase rempli d'eau à sa mère, puis sa mère elle lui demande de faire un signe de croix sur l'eau. Alors, sa mère s'en frotte les yeux à diverses reprises et finit par recouvrer complètement l'usage de la vue. Si c'est pas vrai, c'est très joli comme histoire. Ce sont des contes absolument merveilleux. Et c'est possible que ce soit vrai, pourquoi pas. De tels miracles existent encore aujourd'hui. Et c'est ce miracle qui a consacré définitivement la vocation de Geneviève, qui était appelée à rendre plus tard la santé à tant d'infirmes. Elle a rendu la vue à beaucoup d'aveugles, et puis surtout la lumière de la foi, à beaucoup d'âmes égarées. Geneviève a maintenant 15 ans. Ses parents ne mettent plus de position à ce qu'elle se consacre de façon définitive au Seigneur et qu'elle devienne vraiment une religieuse, pour ainsi dire, dans le monde. Elle va donc se consacrer à l'évêque de Paris, qui seul a le pouvoir d'imposer le voile aux vierges et de les admettre à la profession, à promettre devant Dieu de s'engager dans le célibat et le désir de transformer la société. Alors, deux compagnes plus âgées se présentent en même temps qu'elle. Elle marche à leur suite, mais l'évêque de Paris a deviné que elle est finalement meilleure que les deux autres. Et il dit qu'on mette en avant celle qui marche là derrière, car elle a déjà reçu du ciel sa consécration. Alors là, on accomplit les rites là, pour recevoir ces trois jeunes femmes comme religieuses. Puis finalement, elles se retirent dans leur famille, hein, un peu comme Sainte Catherine de Sienne, qui était dominicaine à domicile. Elle n'était pas vraiment dominicaine, elle était du tiers-ordre, du troisième ordre, de l'ordre laïque. Hein. Mais elle pouvait porter un costume à l'époque de Sainte Catherine de Sienne. Alors, au 5e siècle, donc, on sait que les vierges chrétiennes n'étaient pas cloîtrées. Le seul endroit où elles se trouvaient groupées était à l'église. Elles y étaient complètement séparées du reste des fidèles, toutefois. Peu de temps après sa consécration solennelle, bien Geneviève perd ses parents. Elle quitte Nanterre. Elle est recueillie par sa marraine qui réside à Paris. Dieu, dit-on dans les textes d'autrefois, lui envoie une épreuve personnelle. Mais pourtant, dans le Nouveau Testament, il est dit que Dieu ne nous soumet pas à des épreuves. C'est Saint Jacques qui dit ça. Enfin, une épreuve personnelle qui aura pour effet de l'affermir à jamais dans sa vocation. Car à peine arrivée chez sa marraine, Geneviève tombe malade. Tout son corps devient inerte, ses membres sont sans force pour se mouvoir, ses articulations sont comme disjointes. Puis, les gens pensent qu'elle est morte, mais ils voient bien que ses joues sont encore colorées. Et pendant que son corps lui fait défaut, comme on dit, bien, Dieu marque son âme d'une empreinte surnaturelle que rien ne peut effacer. Et quand elle revient à la santé, Geneviève raconte elle-même qu'un ange l'a transportée au séjour des bienheureux pour lui faire contempler quelque chose de leur bonheur. Entre les dons surnaturels qui lui sont accordés, là, elle reçoit celui de lire dans les âmes. Alors elle sait que tout cela ne constitue pas la vraie vie chrétienne. Elle s'applique d'abord, de façon bien intelligente, à pratiquer les vertus évangéliques, c'est ça qui compte. Et son abstinence en particulier va jusqu'aux dernières limites. Et pendant de longues années, de l'âge de 15 ans à 50 ans, elle ne prend guère d'aliments, surtout que le dimanche et le jeudi. Et elle mange surtout du pain d'orge, des fèves cuites à l'huile. On dit qu'elle ne boit ni vin ni boisson fermentée. Je vous rappelle qu'une sainte de ce siècle n'a rien mangé pendant 50 ans. Je vous en parlerai bientôt au début de février, c'est Marthe Robin. Décédée il y a une quinzaine d'années. De l'Épiphanie au Jeudi Saint, elle se tient enfermée dans sa cellule pour y servir Dieu plus librement par la prière et le silence, hein, comme Sainte Catherine de Sienne et comme à Montréal au début de Ville-Marie, Jeanne Lebert. Pendant qu'elle poursuit sans prétention sa vie de retraite, il vient de mauvaise langue évidemment, hein, se met à parler, on la traite d'hypocrite et de visionnaire, c'est normal. Mais Geneviève laisse dire, car elle est assurée que Dieu saura bien prendre sa défense au moment opportun. Alors l'intervention inattendue de l'évêque Germain, évêque d'Auxerre, va imposer silence à tous ceux qui calomnient notre Geneviève. Elle a 25-26 ans, en 447, et Germain, accompagné cette fois par l'évêque de Trèves, qui s'appelle Sévère, comme son père, retourné en Grande-Bretagne, et il s'arrête à Paris. Alors, Germain se souvient de la jeune fille Geneviève. Il demande qu'est-ce qu'elle est devenue après 18 ans. On lui fait entendre que Geneviève a manqué à toutes ses espérances qu'il avait pu concevoir. Mais il doute de ces bobards, lui. Il ne croit rien de tout ça. Il va droit à la demeure de Geneviève. Puis en présence de tout le monde qui l'a suivi, il salue Geneviève avec tant de, je dirais, de déférence, de respect, que les calomniateurs en sont absolument confondus. Il se met ensuite en prière comme s'il était dans un sanctuaire, quoi. Puis il s'adresse aux détracteurs. Il attire leur attention sur un spectacle émouvant. La place où priait cette vierge humble et simple dans le secret de sa cellule était marquée par des larmes qu'elle avait versées au cours de ses entretiens avec Dieu. Et Germain dit à ceux qui l'entourent, « Ayez donc désormais plus d'égard envers celle qui mène au milieu de vous une vie si agréable au Seigneur. » Et à la fin, les vertus de Geneviève s'imposent au respect de tous. Et à Paris, il y a des jeunes filles qui se sont groupées autour d'elle et qui embrassent sans hésiter son genre de vie. Ça nous rappelle un peu ce saint dont je vous ai parlé hier, Saint Séraphim de Sarov, qui était ce qu'on appelle chez les Russes un fol en Christ. Et ces gens-là, souvent, on ne les respecte pas. Mais cet évêque, Germain, savait deviner le cœur de Geneviève, que malgré les choses un peu excentriques, il y a un grand amour de Dieu au fond de son cœur. Dans la ville de Meaux, une jeune fille du nom de Céline, ou Céline, si on veut, déjà fiancée, elle renonce au mariage. Elle demande à Geneviève de l'initier aux règles de la vie religieuse. Mais le fiancé de cette Céline apprend cette résolution, alors là, il est furieux. Il accourt pour réclamer cette jeune femme qui lui a promis sa main. Alors Geneviève et Céline se hâtent de chercher un refuge dans le baptistère de l'église de Meaux. Meaux, c'est M-E-A-U-X, comme la moutarde de Meaux. Certains aiment beaucoup la moutarde de Meaux. C'est là qu'était Bossuet, évêque. Mais quand le jeune homme qui les a suivis croit les saisir, la porte du baptistère s'ouvre d'elle-même pour recueillir les deux fugitives qui se referment. Puis la porte se referme derrière elle. Ça fait penser à Saint-Pierre au lien. Saint-Pierre en prison, la porte s'ouvre toute seule. Alors ainsi, Céline a pu suivre en liberté sa vocation, libérée de son fiancé. On assure que des étrangers de passage à Paris, sans doute des marchands, ont porté jusqu'à l'étranger la réputation de Sainte Geneviève. À ce point que, très loin de là, Siméon le Stylite, le fameux Siméon le Stylite dont je vous ai déjà parlé, était émerveillé de tout ce qu'on lui racontait de cette jeune femme. Et puis, il a chanté ses louanges, puis il a voulu se recommander à ses prières. La piété de Geneviève se traduit surtout par le culte qu'elle rend aux saints, notamment à Saint-Denis, à Saint-Martin, c'est les grands saints français. Dans le voisinage de Lutèce, c'est-à-dire de Paris, dont les murs, l'enceinte, là, s'étendaient à peine en dehors de l'île où se trouve actuellement Notre-Dame, eh bien, il y avait le village de Cateuil, où reposait le corps de Saint-Denis, premier évêque de Paris. C'était un simple tombeau, à quelques kilomètres donc de la cité, qui marquait l'emplacement de sa sépulture. Et un passage des textes de Saint Grégoire de Tours laisse entendre que ce tombeau avait la forme d'une tour. Geneviève souhaite d'y voir plutôt, elle, une chapelle. Alors elle dit aux prêtres de Paris, avec lesquels elle est en grande relation, elle leur dit, « Vénérable Père et Seigneur, je vous en prie, faites donc une collecte, afin qu'on puisse édifier une église en l'honneur de Saint-Denis, car le lieu où il repose est vraiment sacré. » Nous qui avons à Montréal cette grande rue Saint-Denis, bien c'est en l'honneur de ce Saint-Denis. Mais les prêtres y voient des difficultés. Alors, ils se demandent comment se procurer les matériaux et particulièrement la chaux. Alors, Geneviève leur dit aller de l'autre côté du pont et vous m'en donnerez des nouvelles. Alors, ils l'écoutent. Ils y vont. Ils rencontrent deux porchers, des hommes qui gardent des cochons et qui conversent tous les deux. Et l'un dit, « En suivant les traces d'une truie égarée dans le pâturage, j'ai trouvé un four à chaux qui est très grand. » Alors l'autre porcher dit, « J'ai vu dans la forêt un arbre que le vent avait complètement déraciné, puis sous ses racines se trouvait également un four à chaux. » Alors les prêtres vérifient sur place ce que racontent les deux porchers. Et puis, ils viennent en rendre compte à Geneviève, qui passe toute la nuit en prière. Elle demande à Dieu l'exécution de son projet. Elle va le lendemain en parler à un prêtre qui s'appelle Génésius, ou Genet, si vous voulez. Et c'est son meilleur confident. Et on convient qu'elle fera elle-même une collecte chez tous les habitants de la cité. Alors elle suit de loin l'exécution des travaux, puis un jour que les charpentiers manquent de boisson, elle se met en prière. Elle fait un signe de croix sur une cruche vide qu'on lui présente, et cette cruche est aussitôt remplie miraculeusement. C'est que l'eau était polluée. Ainsi s'achève, peut dire, la première basilique de Saint-Denis dans laquelle est englobé le tombeau primitif de ce saint. Quand on va à Paris, il est normal d'aller voir la basilique de Saint-Denis aujourd'hui. C'est là que sont ensevelis les rois de France, en bonne partie. Lorsque les restes de ce martyr Saint-Denis sont transportés en 625 dans l'abbaye construite à quelques centaines de mètres par le roi Dagobert Ier, eh bien l'église bâtie par Sainte-Geneviève continue d'être consacrée au culte. Et c'est l'église Saint-Denis de Lettré, où Geneviève aimait à venir prier. Elle y venait surtout le dimanche, au moment où il faisait même mauvais. Ça ne l'arrêtait pas. Après une nuit de tempête, elle s'y rend un matin avec ses compagnes, dont l'une porte un cierge allumé pour guider la petite troupe. Et tout à coup, une rafale de vent éteint son cierge. Alors la pluie tombe à verse et le cortège est forcé de s'arrêter, faute de pouvoir se diriger. Alors Geneviève se fait remettre le cierge éteint. Et à peine l'a-t-elle saisi qu'il se rallume de lui-même. Et elle le porte ainsi jusqu'à la basilique. Et la flamme défie toutes les fureurs de l'ouragan. Et le cierge achève de se consumer pendant que Geneviève fait ses prières prosternée à terre. Quoi retirer d'un tel miracle? S'il a existé. Peut-être que c'est pas vrai. Mais le symbole est grand. C'est que dans toute la fureur de notre civilisation actuelle, dans toute la décadence qui nous entoure, dans toute cette perte de sens, nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à garder le cierge allumé. Et ce cierge allumé ne se garde pas par nous-mêmes. C'est en criant vers l'Esprit-Saint qu'on peut garder la flamme allumée au fond de notre âme. C'est ça que ça veut dire, ces contes, ces histoires. Ça nous fait réfléchir au sens de notre vie. Et ce miracle a été interprété comme un symbole de la vertu de Sainte Geneviève aussi. Et on a dit à ce sujet que cette humble vierge avait reçu de Saint-Denis le flambeau de la foi, non seulement pour l'entretenir dans la cité de Paris, mais encore pour le transmettre à toute la nation des Francs, récemment éclose sur le sol de la Gauze. Et c'est pourquoi nos ancêtres, à nous, Québécois d'origine française, l'ont représenté avec un cierge allumé à la main. Et parfois, pour rendre le symbole plus expressif, ils ont ajouté, au-dessus des épaules de cette Vierge, Sainte Geneviève, un démon qui cherchait à éteindre la flamme, comme c'est le cas dans notre société aujourd'hui. Et de l'autre côté, un ange qui rallumait le cierge ou l'empêchait de s'éteindre. Et de cette dévotion de Geneviève à Saint-Denis est né, ou s'est du moins singulièrement développé, le culte du premier évêque de Paris. Alors gardons notre cierge allumé, la foi, l'espérance, la charité et l'amour profond de Dieu. À la même époque, de nombreux pèlerins affluaient autour du tombeau de Saint-Martin, évêque de Tours, dont je vous ai parlé le 11 novembre dernier. Et vers 437, Saint-Brice, B-R-I-C-E, c'est un joli nom au fond, Brice, qui a été le successeur immédiat de ce grand saint Martin, grand thaumaturge, avait fait bâtir une basilique sur le tombeau de Saint-Martin. C'est une basilique immense dont les ruines, on ne peut voir que les ruines aujourd'hui à Tours, malheureusement. Mais cette basilique était plus modeste que celle qui avait été élevée sur le tombeau de Saint-Denis par les soins de Sainte-Geneviève. Alors en 465, l'évêque de Tours, qui s'appelait curieusement Perpétue, a remplacé la chapelle primitive par une nouvelle basilique qui est devenue bientôt le plus fameux sanctuaire de la Gaule. Et là, la dédicace en a été célébrée avec un grand concours d'évêques et de prêtres. Et les fêtes du 4 juillet et du 11 novembre ont été dès lors par excellence les dates du pèlerinage à Saint-Martin de Tours. Alors, Sainte-Geneviève, elle, soit par pure dévotion, ou pour un autre grand saint national, soit pour un autre motif, a voulu faire ce pèlerinage, puis elle est passée par Orléans, où l'avait précédé la réputation de sa sainteté. Alors là, un esclave qui avait manqué gravement à ses devoirs est venu la prier d'intercéder pour lui auprès de son maître. Son maître qui était très irrité, très fâché. Alors, elle le fait, mais le maître ne veut rien entendre. Alors, Sainte-Geneviève lui dit, « Si vous méprisez ce que je vous demande, eh bien, sachez que mon Seigneur Jésus-Christ, qui lui est toujours prêt à pardonner, ne méprisera pas ma demande. » Rentré chez lui, le maître est pris d'une fièvre assez violente qui le tient éveillé toute la nuit. Alors, il reconnaît là une sorte de châtiment pour avoir durci son cœur envers son serviteur. Et dès le matin, il demande à voir Sainte-Geneviève, puis il se jette à ses pieds. Il s'engage à faire ce qu'elle lui demande. Alors Geneviève fait sur lui un signe de croix, la fièvre disparaît, et du même coup, l'esclave rentre en grâce auprès de son maître. Elle enseigne quoi? Le pardon, l'amour. C'est ce qu'elle répand autour d'elle, à foison, paraît-il, tout au long de sa vie. Et Geneviève franchit donc en barque sur la Loire, à petite journée, la distance d'Orléans à Tours. À peine est-elle arrivée que des énergumènes qui sont sortis de la basilique construite par l'évêque Perpétue s'avancent au-devant d'elle en criant qu'ils sont tourmentés par Geneviève autant que par Saint-Martin. Des malades, quoi. Sans se troubler, la jeune vierge pénètre dans l'église. Alors elle y trouve d'autres gens qu'on pourrait appeler des démoniaques qu'elle guérit d'un signe de croix. Les pauvres malheureux, délivrés, déclare à qui veut les entendre que les doigts de Geneviève posés sur eux les ont brûlés comme auraient fait des cierges allumés d'un feu céleste. Alors Geneviève reste plusieurs jours à Tours. Elle y suit fidèlement les exercices religieux là, qui s'accomplissent près du tombeau de Saint-Martin. Et une nuit, à l'office des matines, là, qu'on appelle les vigiles, c'est en pleine nuit, un des chantres est pris subitement de folie. Il se met à déchirer ses vêtements et ses membres. Et finalement, comme par instinct, il quitte le sanctuaire. Il va droit à Geneviève, qui prie dans un coin de la basilique, très secrètement. Et Geneviève le voit venir et comprend que c'est là un fou qui est assailli par l'esprit mauvais. Alors, elle ordonne au démon de quitter le corps qu'il tourmente. Et aussitôt, l'homme est guéri. D'où l'on voit que Geneviève, cette Vierge de Paris, accomplit de grands miracles à Tours même, et qu'elle mérite d'être comparée au plus grand thaumaturge de la Gaule, Saint-Martin. Martin et Denis, Saint-Martin et Saint-Denis, sont à l'époque, cette époque-là, l'époque mérovingienne, les grands saints nationaux de la France, et Geneviève a contribué, dans une certaine mesure, à développer leur culte. Dans les malheurs publics, comme dans les misères privées, Geneviève apparaît à nos yeux comme l'instrument de la Providence. En sauvant Paris, elle devient véritablement la mère de la patrie menacée. Qui va sauver le Québec? Où est cette femme ou cet homme qui va sauver le Québec? On est alors au début de l'année 451. Elle a 30 ans. La nouvelle se répand que la Gaule est menacée d'une nouvelle invasion. Vous savez, à l'époque, les barbares descendaient, là. Alors, une invasion non moins désastreuse que celle de 406. Ça avait été terrible, ça, moins de 50 ans plus tôt. Attila, avec les barbares qu'il entraîne à sa suite, franchit le Rhin sur plusieurs points. Il arrive devant Metz pendant la Semaine Sainte. Le 7 avril, veille de Pâques. Le 7 avril, c'est l'anniversaire du décès de notre Seigneur. Il est mort un 7 avril. Oui, un 7 avril de l'an 30. Alors le 7 avril, veille de Pâques, cette année-là, la ville est prise et incendiée. Les habitants sont massacrés à Metz. Bientôt après, Attila débouche dans la vallée de la Seine. Il approche de la ville de Troyes, d'où une grande partie de nos ancêtres viennent. Troyes. Alors, averti de son approche, les Parisiens ne songent plus qu'à prendre la fuite pour se mettre en sûreté et pour transporter quelques biens importants. Alors, au milieu du désarroi général, Geneviève garde son sang-froid. Elle croit en Dieu, elle croit en la Providence et elle convoque les femmes. Elle leur rappelle les grands exemples dans la Bible de Judith et d'Esther, ces deux grandes juives libératrices du peuple juif. Elle invite donc les femmes à s'unir à elle afin de détourner le fléau. Comment? À force de jeûne, de prière, et de prière durant même la nuit. Et beaucoup de femmes se laissent persuader. Elles se réunissent durant plusieurs jours dans le baptistère de Saint-Jean-le-Rond pour suivre les conseils et les exemples de Geneviève. Mais la confiance qui renaît dans les cœurs est toujours limitée. Le difficile est de la communiquer aux hommes. Geneviève essaie de les convaincre. Elle leur dit « Que parlez-vous de vous réfugier dans d'autres villes? Ces villes seront-elles mieux que Paris abritée contre un coup de main des barbares? Paris, grâce à la protection de Jésus-Christ, échappera au carnage. Ayez confiance. » Mais ces prédictions demeurent inefficaces. Les habitants de Paris, au lieu de se rassurer, s'exaspèrent contre Geneviève, qu'ils traitent de prophétesse de malheur, et quelques-uns ne parlent de rien de moins que de la lapider ou de la jeter à la Seine. Et c'est alors qu'intervient au milieu du tumulte l'archidiacre de l'évêque d'Auxerre. Germain, en mourant, l'a chargé d'apporter à Geneviève des eulogies. Des eulogies, c'est quoi? Ce sont des pains offerts à l'autel par les fidèles au moment de l'offertoire, mais qui n'ont pas été consacrés. Ou encore, ce sont des pains qui avaient reçu une bénédiction spéciale et que les évêques envoyaient, soit à leurs collègues évêques, soit à d'autres personnages en signe de communion. Alors donc, l'évêque a demandé à l'archidiacre d'apporter des eulogies. Et puis, l'intervention du messager est vraiment providentielle. Il leur dit « Parisiens, n'allez pas commettre ce forfait. Celle dont vous projetez la mort est, au témoignage du Saint-Évêque Germain, l'élu de Dieu dès sa venue au monde. Et voici les eulogies que je lui apporte de la part de l'évêque défunt. » Alors, ce souvenir de l'évêque Germain abat toutes les colères, parce qu'ils avaient un grand respect pour cet évêque. Alors, les Parisiens renoncent à prendre la fuite. Vous savez, c'est par la prière qu'on peut empêcher des barbares de faire ce qu'ils font. Dans bien des paroisses, tant aux États-Unis qu'en Italie et ailleurs, on vénère le Très-Saint-Sacrement même la nuit, on se succède. Et savez-vous que les avortements baissent en grande quantité? Que par la prière, il y a des changements dans la conduite des parents, qui, au lieu de tuer leur enfant, le gardent et le sauvent. C'est exact, les statistiques sont là pour le prouver, ça se fait depuis 15-20 ans. Alors l'événement ne tarde pas à justifier tout ce que Geneviève a annoncé. Attila quitte la vallée de la Seine pour se diriger vers la Loire. Il s'arrête sous les murs d'Orléans à cause de l'évêque Aignan, qui a beaucoup d'héroïsme. Aignan, A-I-G-N-A-N. Et il se trouve face à face avec des troupes qui se sont grossies de l'armée des Visigoths. Et il lui faut aller rebrousser chemin. Et puis, il va dans un champ de combat à Mauriac. Mauriac, c'est entre Troyes et Chalon-sur-Marne. Et alors, La bataille a lieu. Les Francs de Mérovée, venus du nord, rejoignent l'armée gallo-romaine. Puis après un sanglant combat, Attila est obligé de se retirer. Et là, les Francs, nos ancêtres, eh bien, à nous de sang français, là, qui sommes très nombreux ici au Québec, eh bien, les Francs restent unis à l'armée gallo-romaine. Ils achèvent la victoire. Et Geneviève, donc, triomphe aussi à sa manière, car Paris demeure inviolé. Et là, les habitants lui l'en remercient. Il la place sur un même piédestal que Saint-Aignan, le sauveur d'Orléans, dont je viens de vous parler. Et après la mort du chef de l'armée, qui s'appelait Aetius, Paris se trouve fréquemment en rapport avec le roi des Francs, Childéric. Childéric, qui étant devenu l'artisan de la paix dans tout le bassin de la Loire, là, est à même d'exercer à Paris une domination incontestée. Et là, entre 458 et 451, Geneviève, qui a près de 50 ans, a maintes occasions de mettre à profit toute la déférence que ce roi montrait pour l'Église. Et c'est ainsi qu'elle obtient de lui un adoucissement des peines aux prisonniers que Childéric voulait mettre à mort. Et il arriva que les Francs ont été rejetés finalement par un chef d'armée de l'armée romaine. Et ils ont tenté de reprendre avantage et puis sans tenir un siège autour de Paris, ils ont rendu difficile le ravitaillement. Et c'est alors, comme ils n'avaient pas rien à manger, que Geneviève est une fois de plus la providence de la cité. Alors là, les routes de terre ne sont pas sûres. Les convois de vivres par cette voie risquent d'être interceptés. Alors il est plus pratique d'utiliser le cours de la Seine, là. Alors là, en aval, les bateaux pesamment chargés, on peine à remonter le courant, alors Geneviève se décide à prendre le fleuve en amont et à se rendre en Champagne, où elle pense bien trouver les provisions, puis là, elle est embarquée à la grâce de Dieu, avec des bons bateliers qu'accompagne au moins un prêtre. Le prêtre s'appelle Bessus, et elle se fait suivre de toute une flottille, puis à un endroit dangereux, sa barque manque de chavirer. Un arbre couché sur le fleuve, peut-être un barrage, là, rend la navigation impossible. Et vous voyez cette femme courageuse, une femme audacieuse. Autrefois, on aurait dit une femme virile. Alors, sous un signe de Geneviève, les bateliers s'approchent prudemment de la rive et pendant qu'elle prie, ils se mettent sur son ordre à faire aller l'obstacle, l'arbre à la dérive. Et bientôt, la flottille peut continuer sa route. Puis elle quitte la Seine. Elle remonte l'Aube jusqu'à Arcis et, à peine débarquée, Geneviève, dont la réputation de thaumaturge s'est répandue jusque dans ses régions, est saluée par l'un des chefs de la ville. Il la conjure de venir visiter sa femme paralysée depuis près de 4 ans. Alors elle se rend au lit de la malade. Elle prie, suivant son habitude. Là, elle trace le signe de la croix sur la paralytique, lui ordonne de se lever. La femme obéit, se tient sur ses jambes, et elle est sauvée. Alors on voit que Sainte Geneviève sauve Paris par la prière. Elle porte un cierge allumé par une tempête et il reste allumé. C'est un exemple pour nous dans les tempêtes de rester toujours courageux et plein d'espoir. Et là, elle va chercher de la nourriture pour sauver le monde. Et pendant qu'on faisait une provision de grains à Arcis, eh bien Geneviève se rend à Troyes par voie de terre. Elle y accomplit encore des miracles. Des vivres sont rassemblés en grande quantité. Geneviève les fait embarquer à Troyes pour qu'ils soient transportés à Rumilly, où elle compte les rejoindre en descendant par la rivière d'Aube. Et revenue à Arcis, elle y séjourne quelque temps. Elle fait charger les bateaux avec les provisions recueillies en son absence. Je vous rends compte, ça c'est pour vous montrer que c'est pas une rêveuse. Elle est concrète, hein? Et le retour à Paris ne se fait pas sans difficulté, vu la surcharge des 11 bateaux qui composent la flottille. Et on doit manœuvrer avec beaucoup d'habileté et de prudence. Quel courage cette femme a! Et un jour, le vent les pousse avec une violence inouïe contre les rochers et les arbres qui bordent la rive. Déjà, ils penchent sur le flanc et commencent à prendre l'eau. Alors Geneviève se met à genoux. Elle demande au Christ Jésus de venir à son secours. Alors les bateaux reprennent leur équilibre et puis continuent leur marche sans encombre. Là, le prêtre Bessus, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été glacé d'épouvante, entonne un chant d'action de grâce, auquel se joignent tous les gens d'équipage. Alors, ils arrivent aux rives de l'île de Paris, l'île de la Cité, où il y a l'église Notre-Dame et Geneviève, commencent les distributions. Et puis, elle donne une attention spéciale aux pauvres gens, à qui toute ressource manque depuis longtemps. Et puis, elle leur fait remettre des pains entiers, au lieu de la simple ration quotidienne accordée aux autres. Ça rappelle tout ce qui s'est passé à Montréal durant le mois de décembre pour nourrir les plus pauvres et les gens en difficulté. Cet acte de charité se continue toujours au sein du christianisme en particulier, où la charité se pratique comme par instinct de civilisation, même par ceux qui ont rejeté le christianisme. Ça nous est expliqué dans des revues comme le Nouvel Observateur qui est paru il y a quelques jours sur le christianisme. Très beau numéro sur le christianisme dans le Nouvel Observateur paru il y a une semaine. Lorsque Childeric vient à mourir en 481, Sainte Geneviève a l'occasion de renouer avec Clovis, le fameux Clovis, qui a été célébré récemment, de renouer les relations cordiales qu'elle a eues avec son prédécesseur. L'unique motif de ses recherches est l'intérêt des malheureux. Elle ne s'occupe que des malheureux, c'est eux qu'elle aime. Clovis, par égard pour elle, cesse d'être aussi sévère, aussi rigoureux, selon les exigences de sa politique. Geneviève a 80 ans et elle meurt aux environs de l'an 512, un 3 janvier. Sur son tombeau, placé dans un coin du cimetière parisien sur le mont Leucotitius, est bientôt érigé un petit oratoire en bois. Alors Clovis, un peu plus tard, choisit cet emplacement pour y construire l'église Saint-Pierre ou des saints apôtres. La reine Clotilde y met la dernière main. Cet édifice, appuyé sur une crypte qui devait recevoir les sépultures royales, avait l'aspect des basiliques primitives. Et c'est là que a reposé Geneviève. Un temps est venu où l'église Saint-Pierre du mont Lutèce a reçu le nom le plus populaire de tous ceux du VIe siècle. On l'a appelée l'église Sainte-Geneviève. Et ce nom s'est communiqué à la montagne elle-même, la montagne Sainte-Geneviève à Paris. Sur ce tombeau s'est portée aussitôt l'attention des foules et les malades sont venus chercher la guérison. Celui qui a écrit la vie de Sainte-Geneviève, la Vita Genovefe, il écrivait vers l'an 520, et signale la guérison d'un jeune homme nommé Prudent, qui souffrait cruellement de la pierre. Signale aussi la guérison d'un got, qui en travaillant le dimanche avait été frappé d'une paralysie des deux mains. Et plus tard, on a rédigé un livre de ces miracles. Dès avant la fin du VIe siècle, Grégoire de Tours consacre quelques lignes de son livre des Gloria Confessorum, de la gloire des confesseurs, à Sainte-Geneviève. C'est le chapitre 91. Vers 630, Saint-Éloi place au-dessus du tombeau de Sainte-Geneviève une grande décoration dans laquelle sont entrées des pierreries, des métaux précieux, et deux siècles se sont écoulés, pendant lesquels le peuple est venu faire ses dévotions accoutumées à ce tombeau. En 1147, l'abbaye Sainte-Geneviève avait été confiée aux chanoines réguliers de Saint-Victor, qui était très puissant à l'époque. Le tombeau a acquis, l'abbaye a acquis une grande célébrité, et ses écoles ont rivalisé avec celles de Notre-Dame même. Elle partage l'honneur d'avoir donné naissance à l'Université de Paris, la Sorbonne. La population s'étant groupée sur le mont Sainte-Geneviève, on a dû construire une église paroissiale, laquelle était desservie par les chanoines de Sainte-Geneviève. Il y a eu des chanoines de Sainte-Geneviève, devaient dépendre de l'abbaye. Et pour marquer cette dépendance, il a été établi que pour entrer dans cette église, on devait passer par la basilique. Et l'église, au XIIe siècle, a reçu le nom de Saint-Étienne-du-Mont. Ben oui, Saint-Étienne-du-Mont, qui existe toujours. Ce culte à Sainte-Geneviève s'est fait une place considérable dans le cœur des Parisiens au point d'éclipser celui de Saint-Denis, de Saint-Martin, de Saint-Marcel, de Saint-Germain. Cela tient à ce que les Parisiens de chaque génération ont cru aux faits miraculeux que je viens de vous raconter, puis il y en a bien d'autres. Et les guérisons opérées au passage des reliques de Sainte-Geneviève à l'époque des invasions normandes, la protection assurée à Paris et à la France, dans des circonstances critiques, ont entretenu cette dévotion d'âge en âge. Et à partir de cette époque, eh bien, les manifestations du culte national envers la Sainte Patronne de Paris se sont multipliées. Chaque année, on a fait d'immenses pèlerinages. Mais le 14 août 1792, la châsse contenant les reliques de Sainte-Geneviève est considérée comme le cœur de Paris, le palladium de la capitale, a été transférée à Saint-Étienne-du-Mont. Le peuple a continué à y venir prier sa patronne. Mais le 9 novembre 1793, cette même châsse a été portée à la Monnaie. Le 21 novembre suivant, les ossements qu'elle contenait ont été brûlés en place de grève par les révolutionnaires. Et les cendres ont été jetées à la Seine. 10 ans plus tard, quelques parties des reliques sauvées de la destruction par des moines qu'on appelait les Génovéfains en l'honneur de Sainte-Geneviève, qui les avaient, s'en étaient emparés pour les sauver, les ont données à divers sanctuaires. Ça a été finalement restitué à la ville de Paris. Ceci termine donc cette vie étrange, très ancienne, de Sainte-Geneviève. On aura toujours profit à se référer à des ouvrages autres, des ouvrages qui sont parus récemment, des textes même intitulés « Les Pères de la Gaule chrétienne », c'est paru cette année, dans la collection « Foi vivante » aux éditions du Cerf, et c'est sœur Agnès Aigron qui les a colligés. Le titre du livre, « Les Pères de la Gaule chrétienne ». Vous avez tous les textes anciens, authentiques. Je vous rappelle que dimanche, après-demain, le 5 janvier, il y aura à 7h30 du matin des célébrations fantastiques à l'église du Jésus. Ce sont les matines de l'Épiphanie en grégorien. Oui, à l'église du Jésus en plein cœur de Montréal. Ce sera présidé par un bénédictin, dont Robert Bessette, dont la voix est magnifique. Il y aura un court drame liturgique du 11e siècle qui sera inséré dans tout ça, et le chant sera interprété par la Scola Saint-Grégoire sous la direction de Jean-Pierre Noiseux, qui est directeur de la musique à Radio Ville-Marie. Donc, rendez-vous après-demain, dimanche, à 7h30 du matin, à l'église du Jésus, 1200 rue de Bleury, au sud de Sainte-Catherine. On sort par le métro Place des Arts. On tombe sur la rue Bleury. À dimanche matin, donc. Et aussi, à la semaine prochaine. Ici Raymond Beaugrand-Champagne qui vous dit au revoir.